Géopolitique, Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Rarement un coup d'État n'aura été aussi bien accueilli par la population d'un pays. Le 18 août dernier, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé sont arrêtés par des mutins et conduits au camp de Kati. Le soir même, à Bamako, des soldats fraternisent avec les manifestants qui, depuis des mois, réclamaient le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, accusé de corruption et d'inertie face à l'insécurité croissante. Quelques heures plus tard, sous la contrainte des militaires, le chef de l'État annonce à la télévision sa démission, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Au milieu de la nuit, les putschistes, constitués en Conseil national pour le salut du peuple, annoncent vouloir instaurer une transition politique civile, devant conduire à des élections générales dans un délai raisonnable. L'opposition salue le coup d'État et se dit prête à travailler avec les militaires. Depuis, la transition se fait attendre. La junte place ses hommes à des postes clés, tandis que des premières dissensions sont apparues entre les militaires et le M5, fer de lance de la fronde anti-IBK. Alors, quelle feuille de route sortira de la concertation nationale lancée ce week-end entre la junte, les partis politiques, les groupes armés du Nord, signataires de l'accord de paix de 2015, les syndicats et la société civile? Combien de temps durera la transition et qui la dirigera? Les officiers tiendront-ils leur promesse de remettre les clés aux civils à l'issue de cette période? Ont-ils la capacité, comme l'espèrent les Maliens, de remettre le pays sur les rails, de contrer les groupes djihadistes? Le putsch est-il le symbole de l'échec de la France et des Occidentaux au Mali? On en débat avec trois invités. Caroline Roussier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, responsable du programme Afrique. Ibrahim Maïga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'ISS, à l'Institut d'études de sécurité, basé à Bamako. Et Mathieu Pellerin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert Sahel à l'International Crisis Group et chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Ibrahim Maïga, ma première question est pour vous. Comment avez-vous vécu ce décalage entre la liesse à Bamako après le putsch et le concert de condamnation dans le monde de l'ONU à l'Union africaine en passant par la CEDEAO et la France?
Écoutez, le décalage, il est antérieur au coup d'État du 18 août dernier. On savait qu'il y avait un décalage entre les revendications ou le sentiment populaire ici au Mali et certaines des priorités de la France et des partenaires internationaux de façon générale. C'est d'ailleurs ce qui a conduit ces dernières années à ce qu'on a appelé le sentiment anti-français ou sentiment anti-forces étrangères. C'est ce sentiment finalement qui s'est encore une fois de plus exprimé au lendemain du coup d'État. Après, il faut savoir qu'on est dans des condamnations de principe et que même la France, à y regarder de plus près, on voit un changement de discours en 24-48 heures. Donc, la plupart des organisations, la plupart des pays, en dehors de quelques pays de la CEDEAO, sont clairement dans des condamnations de principe et ont, dès le lendemain ou quelques jours après, acté le départ du président IBK.
Ibrahim Maïga parlait à l'instant de la CEDEAO. Mathieu Pellerin, la CEDEAO a été très prompte à réagir au putsch en lançant des ultimatums aux militaires, en imposant des sanctions au Mali, en décrétant la fermeture des frontières. Donc, mais au-delà de la condamnation formelle du coup d'État, pratique antidémocratique s'il en est, mais est-ce que certains chefs d'État de la CEDEAO ont eu peur de la contagion, ont eu peur que cela donne des idées à certains dans leur propre pays?
Oui, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus pour considérer que les chefs d'État, en tout cas certains chefs d'État de la CEDEAO, pensent peut-être moins à la situation malienne qu'à leur propre situation nationale, à la veille de scrutins qui sont décisifs et pour certains au seuil d'un troisième mandat. Donc c'est évident qu'ils ne veulent pas que la situation malienne puisse faire jurisprudence et puisse inciter des acteurs chez eux à y voir un moyen de faire une entorse au processus électoral.
Qui sont les tenants de la ligne dure au sein de la CEDEAO, Caroline Roussier?
Oh bien, les tenants, je pense qu'on les connaît déjà à la suite de ce que vient d'avancer Mathieu Pellerin, à savoir Alpha Condé et Alassane Ouattara, qui tous deux sont effectivement dans une séquence présidentielle et se présentent respectivement un troisième mandat.
Pour qui ce putsch militaire a-t-il été une vraie surprise? Est-ce que la France, Mathieu Pellerin, la France militairement présente au Mali depuis janvier 2013, avait anticipé ce scénario?
Ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a un risque de coup d'État au Mali, mais depuis 2013, c'est des rumeurs qui circulent de manière épisodique. J'aurais tendance à dire qu'un coup d'État réussi au moment où personne ne s'y attend. Si justement il est anticipé, il y a des chances qu'il soit empêché au dernier moment. Ensuite, pour ce qui est de la France à proprement parler, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer que personne en France n'ait pu être au courant de rumeurs de coup d'État. Mais encore une fois, entre une rumeur et un scénario qui se réalise a priori de manière assez rapide, peut-être que la situation les a dépassés aussi.
Ibrahim Maïga, est-ce que vous-même avez été surpris par ce coup d'État, par sa préparation apparemment, son organisation, tout s'est déroulé sans violence? Comment vous avez accueilli la nouvelle et le déroulé des événements?
Surpris un tout petit peu par la rapidité déconcertante avec laquelle tout cela s'est organisé. Il faut rappeler qu'il y a, avant le coup d'État, déjà, il y avait des tensions très vives dans le pays, notamment le M5 d'un côté et le président Ibeka. Ces tensions, on savait qu'elles allaient, à un moment ou à un autre, probablement déboucher sur ce type d'action, mais on ne savait pas exactement quand et si cela allait réussir. Maintenant, surpris par la rapidité, oui, effectivement, avec laquelle tout cela s'est organisé, et surpris en partie par l'identité de ceux qui ont porté ce putsch-là. Il faut rappeler que c'est des officiers supérieurs, dont certains ont été appelés à Bamako, notamment pour surveiller ou gérer les manifestations de rue qui étaient planifiées par le M5 RFP.
Oui, parce que les militaires qui ont pris le pouvoir, donc, sont des hauts gradés, beaucoup de colonels. Est-ce que c'est ça la différence principale avec le putsch de 2012 qui avait renversé le président ATT, Amadou Toumani Touré?
Oui, c'est un des éléments de distinction, de différenciation entre les deux putschs. Celui de 2012 avait effectivement été conduit par des sous-officiers. À la tête, on avait un capitaine, le capitaine Amadou Ayassanogo. À y regarder de plus près, effectivement, ce sont à peu près les mêmes griefs qui sont aussi portés contre le président Ibeka, mauvaise gouvernance, corruption, détournement, surfacturation, insécurité rampante dans le pays. Donc oui, il y a des similitudes entre les deux coups d'État. Après, comme je le disais, il y a aussi des éléments de différenciation. L'un des éléments de différenciation, c'est l'identité même des auteurs du putsch. Et on voit la façon aussi, enfin l'impact que cela a eu sur la façon dont le putsch et l'après-putsch a été géré, puisque les militaires, les officiers supérieurs ont tenu à rapidement sécuriser les personnalités de l'ancien pouvoir, le président Ibeka, son premier ministre Bobou Cissé, le président de l'Assemblée nationale, Moussa Tembiné, et les autres ministres qui étaient en poste. Donc cela tranche un petit peu avec la cacophonie et aussi la confusion qui a régné au lendemain du 22 mars 2012.
Mathieu Pellerin, est-ce que ce coup d'État militaire est clairement un échec pour la France et la communauté internationale qui depuis 7 ans maintenant soutiennent à bout de bras cet État en pleine déliquescence qui est devenu le Mali?
Oui, indiscutablement, c'est l'échec de tous ceux qui ont soutenu un régime dont beaucoup savaient qu'il y avait énormément à redire, qu'il y avait des pratiques qui existaient, qui étaient dénoncées dans le pays, mais qui suscitaient le mutisme un peu de la communauté internationale. Et c'est un scénario quand même qui est récurrent depuis 2013. Et je pense que du côté de la communauté internationale, et la France en tête, il y a eu l'idée qui a prévalu selon laquelle la stabilité, coûte que coûte, valait mieux qu'une incertitude politique. Et au nom de cette stabilité, on a soutenu, je dirais, à bout de bras et en fermant les yeux de manière volontaire sur beaucoup de pratiques qui étaient regrettables. Et je pense que les dernières élections législatives ont été le point de départ, enfin c'est pas je pense, c'est évident même, ont été le point de départ de la contestation qui s'est traduit ensuite par ce putsch.
Caroline Roussy, vous êtes d'accord? La France a préféré fermer les yeux ou elle s'est trompée sur l'homme, sur le président Ibrahim Boubacar Keïta?
Je pense que la France ne s'est pas trompée sur l'homme. Je pense que la France a souhaité composer avec ce régime à tout le moins. Et je corrobore en effet ce que Monsieur Pellerin vient d'avancer. En fait, on a privilégié la stabilité coûte que coûte. Et cette stabilité devient un cache-misère pour ne pas engager des réformes structurelles. Et en effet, on se retrouve avec un effet boomerang qui aujourd'hui est un échec, mais un échec tendanciel depuis plusieurs années.
Mathieu Pellerin, est-ce que c'est aussi l'échec d'une stratégie, le tout sécuritaire ?
Oui, en partie, mais je dirais que on peut voir ça sous cet angle. Disons que le tout sécuritaire est porté par la France parce qu'elle est à l'avant-garde de la lutte antiterroriste, et faire de la lutte antiterroriste ne nécessite pas forcément derrière d'engager des réformes de fond sur le plan politique, y compris d'ailleurs même au niveau de la gouvernance des forces armées maliennes. Mais je dirais que ça traduit l'échec du tout sécuritaire, surtout au regard de la situation générale dans le pays, que ce soit au nord et au centre du pays, où il n'y a aucune amélioration de la situation. Et c'est précisément parce que chaque gain court-termiste qui peut être réalisé de la part de la France à travers les différentes frappes qui sont conduites, et depuis le mois de janvier, ces frappes sont vraiment considérables, en particulier contre l'État islamique, ne sont pas capitalisées, ne profitent pas à la stabilité du pays, précisément parce que l'État malien n'est pas là derrière pour profiter, je dirais, d'une sécurité à court terme gagnée dans certains territoires. Et du coup, ceux qui profitent de ce vide sécuritaire, ce sont précisément les autres groupes djihadistes, et singulièrement Jnim. Donc aujourd'hui, il y a une dynamique de recrutement djihadiste fondée sur tous les errements de la gouvernance qui existe au Mali, qui nourrit, je dirais, le fonctionnement de ces groupes djihadistes au mépris de la lutte antiterroriste.
Ibrahim Maïga, Emmanuel Macron avait reproché à Ibeka de ne pas endiguer la montée du sentiment anti-français. Mais quand une armée étrangère, après une intervention ponctuelle, s'installe, est-ce que ce n'est pas inévitable qu'elle soit perçue comme une armée d'occupation ?
Oui, alors je pense que c'est un mauvais procès qu'on faisait à Ibeka, dans la mesure où le sentiment dont on parle, le sentiment anti-Balkan, anti-présence force étrangère, qui était, il faut le souligner, vif dans les capitales sahéliennes, pas uniquement Bamako, mais aussi Niamey et Ouagadougou, et qui contrastait quelque part avec ce sentiment d'utilité que Balkan avait pour les populations ou les zones dans lesquelles elle est le plus actif. Je fais référence à Gao, à Kidal, à d'autres zones du Mali, par exemple, où on a le sentiment que même si Balkan a encore des failles, sa présence contribue à dissuader les groupes armés terroristes, au moins de s'attaquer aux centres urbains. Après, je pense qu'effectivement, le fait que le sentiment s'exprimait très fort à Bamako a pu faire croire à certains dans l'entourage du président Macron qu'Ibeka n'était pas étranger, ou en tout cas des proches d'Ibeka n'étaient pas totalement étrangers à ce qui se passait. Je pense que il faut regarder au-delà de la personne d'Ibeka. Il est vrai que à Bamako en particulier, les gens sont très critiques vis-à-vis de la présence internationale, mais aussi de la présence française en particulier. Mais je crois que il faut le mettre dans un cadre beaucoup plus large. Au cours des dernières années, les Maliens, en discutant avec eux, vous donnent le sentiment qu'ils ont été quelque part dépossédés de leur capacité d'action et de leur capacité d'initiative tout court. Cela c'est illustré d'abord par la signature d'un accord de paix auquel la population n'a pas participé, n'a pas contribué. C'était un dialogue essentiellement mené par l'intermédiaire de l'Algérie, de la communauté internationale, entre des acteurs armés du Nord et le gouvernement malien. Ensuite, on a presque exigé du gouvernement malien qu'il passe à une révision ou à une réforme de la constitution. Là encore, les populations se sont, en particulier à Bamako, se sont mobilisées contre le projet qui était perçu comme une exigence de la communauté internationale, la France en tête.
Caroline Roussy.
Oui, je voulais juste ajouter qu'une force étrangère, exogène, donc au milieu dans lequel elle intervient, au bout d'un cycle, et c'est vérifiable dans de nombreux endroits, finit par être perçue comme une force d'occupation. Je citerai à titre d'exemple, en 1981, l'armée sénégalaise intervient en Gambie. À partir de 1985, on sent qu'il commence à y avoir une certaine défiance, et que l'armée sénégalaise est perçue comme une force d'occupation en Gambie. Donc, si vous voulez, ce sont des cycles assez naturels et ce qui fait que Barkhane se retrouve dans cette situation de critique, voire comme force force d'occupation de type néocolonialiste, même si, comme Ibrahim Maïga vient de le rappeler, c'est les choses sont en réalité bien plus complexes et que la junte a rapidement fait un pas en direction de Barkhane pour demander à ce qu'elle reste sur place, entre autres.
Mathieu Pellerin, par rapport à ce que disait Ibrahim Maïga tout à l'heure, est-ce que vous partagez son analyse? Est-ce qu'il y a eu des maladresses de la part de la France dans les suites de l'intervention de janvier 2013 contre ce convoi de djihadistes qui roulait vers Bamako?
Je dirais qu'il y a eu effectivement, je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit précédemment, il y a eu une succession d'erreurs, mais je dirais que la première erreur, ça a été la crise libyenne. Et partout au Sahel, y compris les chefs d'État d'ailleurs des pays sahéliens, continuent de reprocher à la France sa responsabilité dans le drame libyen qu'on connaît aujourd'hui. Et dans la continuité directe de ce drame libyen en 2011, il y a eu cet appui français apporté au MNLA, c'est un secret de polichinelle désormais, qui du coup continue de susciter beaucoup, beaucoup de critiques à Bamako. Et on a vu, lorsque le président Ibeka, au sommet de Pau, a demandé, sous pression quand même d'une grosse partie de la société malienne, de porter le cas de Kidal au niveau du sommet de Pau et de résoudre le cas de Kidal. Et le cas de Kidal, c'est une singularité malienne où l'armée malienne n'est pas encore présente effectivement, ou simplement à titre symbolique désormais, dans ce qui est le bastion de la rébellion de 2012. Et la France est toujours accusée de couvrir un petit peu l'absence de l'armée malienne à Kidal. Donc c'est aussi, je pense, un facteur tout à fait important de crispation à l'égard de la France. Ensuite, sur la gestion post 2013, il y a eu, je pense, une erreur qui a été commise de la part de Barkhane. Ça a été de passer directement du format de Serval, c'est-à-dire une gestion de la crise malienne, à une régionalisation des opérations antiterroristes avec Barkhane. Et le fait de régionaliser l'approche, ça a libéré énormément le terrain au nord du Mali et ça a permis au groupe de se reconstituer et de se nourrir de tous les errements de gouvernance dont on parlait précédemment. Donc je pense que la France a effectivement commis une erreur à ce moment-là. Et derrière, comme on l'a dit, l'absence de volonté d'engager des réformes au risque de susciter des tensions et des troubles dans le sud a réduit à peau de chagrin un peu les succès de la lutte antiterroriste.
Ibrahim Maïga, Kidal, toujours pas sous le contrôle de Bamako, c'est le reproche principal qu'on pouvait faire au régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, de ne pas avoir réussi à unifier le pays, à assurer l'intégrité territoriale du Mali.
Alors, c'est l'un des reproches qu'on faisait au pouvoir d'Ibeka. C'est l'un des reproches, en tout cas, que les Maliens faisaient à Ibeka. Après, sur la question de Kidal, je pense que il y a aussi, bien entendu, pour les Maliens, une responsabilité de la part des gouvernants maliens eux-mêmes. Mais il y avait surtout et avant tout une responsabilité de la France qui est présente dans la région de Kidal, contrairement à l'armée malienne qui, comme Mathieu le rappelait, est depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois à Kidal, mais de façon très symbolique. On sait que la ville reste contrôlée par la CMA. Les allées et venues dans la ville de Kidal sont contrôlées par la CMA. C'est elle qui gère véritablement la ville et il y a eu des actes au cours des dernières années qui ont contribué à encore davantage cristalliser la tension et les passions sur le cas de Kidal. Kidal est devenu vraiment le symbole de l'échec non seulement d'Ibeka mais surtout de la France, surtout imprimé la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et cela intervient dans un contexte où, comme Mathieu le rappelait, il y a des accusations qui sont vérifiées de collusion entre certains services français et le MNLA, essentiellement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Tout cela a finalement nourri ce sentiment que je rappelais en début d'émission, sentiment anti-Balkan, anti-force étrangère. Et les gens aujourd'hui continuent de s'interroger sur les motivations ou les vraies raisons de la présence de la France aux côtés du Mali et en particulier dans sa présence dans la région de Kidal.
Ibrahim Maïga, Mathieu Pellerin, Caroline Roussy, on va faire une pause le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre de l'après-putsch au Mali.
Ce dimanche,
géopolitique,
Chantal Loureau.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. La junte aux commandes du Mali depuis le putsch du 18 août va-t-elle tenir sa promesse de rendre le pouvoir aux civils au terme d'une transition qui reste floue? Les militaires et le mouvement du 5 juin de l'imam Mahmoud Diko, fer de lance de la contestation anti-Ibeka, pourront-ils travailler ensemble? Avec quel objectif? La présence militaire française au Mali risque-t-elle d'être remise en question? On en débat avec les chercheurs Ibrahim Maïga, Caroline Roussy et Mathieu Pellerin. Après un raté samedi dernier, c'est ce week-end que démarrent les concertations entre la junte d'un côté, les partis, les syndicats, les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger et la société civile de l'autre. Et à l'heure de la transition, le M5-RFP veut être placé sur un pied d'égalité avec la junte. Qu'en pensent les Maliens? Notre envoyé spécial à Bamako, David Baché, a promené son micro dans les rues de la capitale où les avis sont partagés.
C'est le comité qui est venu achever le travail du M5. Donc le comité, il ne peut rien faire sans le M5.
Si vous voyez que nous sommes là actuellement à l'aise, c'est grâce au M5-RFP. Donc c'est eux qui ont eu le courage. Il y a des têtes. On connaît les enjeux politiques. Les militaires ne sont pas vraiment doués dans la politique. Donc il faut qu'il y ait les gens du M5.
Je veux qu'on laisse la place aux jeunes et avec les militaires aussi. Pas les membres de la M5. Je ne veux pas qu'ils participent. Ce sont les vieux politiques et c'est les mêmes personnes depuis des années. Il faut qu'il y ait un changement.
J'aimerais que les militaires prennent le pouvoir pour diriger le pays. Les M5 et puis les vieilles têtes là, j'aime pas qu'ils viennent au pouvoir. J'encourage les militaires quoi.
Ibrahim Maïga, c'est logique que le mouvement du M5 estime être le partenaire naturel de la junte, qu'il veuille décider de la transition, de sa durée, de son organisation, au même titre que les militaires du CNSP?
Enfin, logique, je sais pas, mais il est clair que le M5 estime avoir été le fer de lance de la contestation et de la mobilisation qui a contribue à fragiliser grandement le pouvoir d'Ibeka et qui a facilité la prise de le pouvoir par ces officiers-là. Après, je pense qu'en termes, il faut peut-être préciser que l'imam Mahmoud Diko est l'autorité morale, la figure tutélaire de ce mouvement-là, mais qu'au sein de ce mouvement, on a effectivement, comme le rappelait un des interlocuteurs rencontrés à Bamako, de vieux compagnons politiques finalement d'Ibeka qui ont gouverné avec Ibeka au tout début de son mandat, et certains qui ont même continué jusqu'à son second mandat. Donc il y a un manque de confiance envers cette classe politique qui a gouverné avec Ibeka par le passé, qui ne s'est pas montré particulièrement efficace non plus. Donc il y a véritablement une suspicion vis-à-vis des têtes de figure de ce mouvement-là. Après, les gens ont envie de croire que l'imam Mahmoud Diko va pouvoir contenir les appétits politiques de certains acteurs au sein du M5 et va pouvoir pousser dans la bonne direction. Après, le M5 est un peu dans son rôle. Alors, il faut dire que les concertations nationales qui étaient prévues la semaine dernière ont été reportées à cette semaine. Donc, on sent aussi quelque part un peu d'impréparation, un peu d'improvisation dans les actions, dans les actes posés par le CNSP depuis la prise de pouvoir le 18 août dernier. Je rappelais en début d'émission qu'il y a une différence nette entre le coup d'État de 2012 et celui de 2020. Je disais que le premier élément de différenciation, c'était l'identité même des auteurs du putsch. Alors, évidemment, c'est des officiers supérieurs qui maîtrisent aussi davantage les codes de la politique internationale, des relations internationales. Vous le rappeliez, la plupart sont colonels, voire colonels-majors. Donc, c'est des gens qui maîtrisent bien les enjeux. Après, il y a une réalité politique complexe aujourd'hui, peut-être beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était en 2012, qui fait que on assiste à des tâtonnements, à des allers-retours, des pas en avant et deux pas en arrière depuis la prise de pouvoir par ce comité militaire.
Mathieu Pellerin, vous avez l'impression que les militaires cherchent à gagner du temps pour ne pas avoir à trancher trop vite sur les points qui fâchent, c'est-à-dire qui va mener la transition? Est-ce qu'elle sera à la fois civile et militaire ou est-ce qu'elle sera entièrement civile? Est-ce qu'ils sont prêts déjà à laisser les civils diriger les choses? C'est pas tout à fait sûr quand on voit que le colonel Assimi Goïta a été proclamé chef de l'État déjà par la junte. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bon, je pense que, comme l'a dit Ibrahim, chacun est dans son rôle. Je ne sais pas s'ils cherchent à gagner du temps. En tout état de cause, ils cherchent à maximiser leurs intérêts et peut-être derrière, à leurs yeux, l'intérêt de l'État malien, parce qu'ils veulent une refondation complète du système politique malien. Et ils estiment qu'effectivement, une transition courte, comme le souhaitent la CDAO et la communauté internationale dans son ensemble, avec une présence forte de civils, notamment à la tête de la transition, pourrait contrecarrer cette ambition. Je pense qu'on est dans une phase de négociation où chacun essaye de tester aussi sa force, tant la CDAO avec la menace de sanctions que la junte actuelle en maintenant ses volontés. Et les atermoiements qu'on a pu voir depuis une semaine dans le cadre des concertations nationales sont, de mon point de vue, un peu salutaires. C'est des atermoiements, je pense, qui sont inéluctables dans le cadre de négociations actuelles et qui traduisent in fine le fait que la CNSP n'avance pas seule. À telle enseigne qu'à deux reprises, il a renoncé à l'organisation d'événements afin d'inclure des parties qui se sentaient lésées. Et moi, je vois ça de manière positive.
L'imam Diko a prévenu les militaires qu'il n'avait pas carte blanche. Est-ce que l'imam Diko est aujourd'hui incontournable, quel que soit le scénario, et le compromis qui sortira en principe d'ici au 12 septembre, le compromis qui devrait sortir de cette grande consultation, Ibrahim Maïga?
Il est clair que dans un contexte de faiblesse chronique de la classe politique, mais aussi de la société civile au Mali, il est clair qu'une figure comme l'imam Diko est incontournable et le restera autant que la classe politique ne parviendra pas à se mettre d'accord d'abord et à faire émerger de nouvelles figures. Parce que, il faut le dire, je pense qu'il y a aussi une confusion entre civil et politique aujourd'hui. Quand vous promenez dans les rues de Bamako et au-delà de Bamako et que vous interrogez les gens, oui, il vous donne le sentiment que la transition doit être gérée exclusivement par les militaires, contrairement aux vœux, aux souhaits et même à l'exigence de la CDAO et d'une partie de la communauté internationale. Maintenant, il y a, comme je le disais, une grande confusion entre civils et acteurs politiques. Et cette désaffection pour les politiques et pour la vieille garde politique qui aujourd'hui compose en grande partie le M5-RFP fait que une transition militaire n'est pas aussi détestable pour les Maliens qu'elle l'est pour les acteurs régionaux, voire les acteurs internationaux.
Caroline Roussy, la CDAO réclame des élections sous 12 mois. Est-ce que c'est un délai raisonnable ou est-ce que c'est un délai trop court pour organiser un scrutin réellement libre et transparent?
Alors, je pense que d'abord, c'est aux Maliens d'en décider. Organiser une élection, un processus électoral, c'est extrêmement compliqué. Cela demande des fonds, donc des fonds peut-être des bailleurs internationaux qui seraient susceptibles, bien évidemment, d'imposer des conditionnalités. On a l'impression que quand même, dans cette séquence, il y a quand même quelque chose d'un petit peu flou. Le processus électoral ne saurait être synonyme de démocratie. On entend bien qu'il y a des concertations pour établir une feuille de route, identifier les leviers d'action, quels sont les acteurs qui seraient susceptibles d'être pertinents et finalement peut-être engager un certain nombre de chantiers considérant la crise multidimensionnelle qui a été décrite en maintes occurrences. C'est peut-être là la préoccupation première des Maliens et qui n'est pas exclusive bien évidemment du processus électoral et de sa mise en place, mais regarder uniquement dans cette direction peut causer des frustrations, notamment à l'égard de la population malienne et des gens qui sont descendus dans la rue pour justement l'amélioration de leurs conditions de vie.
Et si des élections se soldaient par la victoire de représentants de la vieille garde que mentionnait à l'instant Ibrahim Maïga, ce serait retour à la case départ?
Vraisemblablement, mais de toute façon pour l'instant on voit cette exigence de la communauté internationale, on ne voit pas d'hommes providentiels ressurgir, donc effectivement avec un risque que des personnalités de la vieille garde ressortent, tout en sachant que dans les moments un petit peu de transition aussi, on a besoin quand même de gens d'expérience, donc à savoir à quel poste les mettre, et ça bien évidemment ce sera aux Maliens d'en décider, de savoir comment composer avec de nouvelles figures, identifier des acteurs légitimes et qui sont considérés comme tels, et peut-être capitaliser également sur l'expérience de cette vieille garde politique, quand bien même elle pourrait être critiquée ou critiquable aux yeux de la population.
Mathieu Pellerin, quid du sort de Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition malienne, enlevé le 25 mars en pleine campagne législative? Sa libération faisait partie des revendications des manifestants qui réclamaient le départ d'Ibeka du pouvoir. Le CICR a transmis en août des lettres de Soumaïla Cissé à sa famille. Est-ce que l'on sait qui mène les négociations avec les ravisseurs et est-ce que l'on sait qui sont les ravisseurs?
Bon, les ravisseurs, manifestement, c'est JNIM, donc le mouvement qui rassemble les katibates sahariennes affiliées à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Je pense que là-dessus, il y a très peu de doutes. Je me garderai de citer les noms, mais beaucoup savent qui mène les négociations et sans doute que l'un des facteurs qui a contribué au retard de la libération, c'est le fait que le processus a changé de main, je dirais, côté malien. Donc, depuis une semaine, il y a des rumeurs indiquant que la libération est imminente. C'est pas la première fois qu'il y a ces rumeurs. Je m'avancerai pas sur quelconque forme d'optimisme par rapport à sa libération, mais manifestement, voilà, la filière actuelle y travaille.
Ibrahim Maïga, vous vouliez revenir sur la question des élections.
On voit très bien que l'expérience malienne le prouve d'ailleurs, que le cycle coup d'État, transition et organisation rapide d'élections présidentielles qui pourraient aboutir à l'élection ou à l'émergence d'un nom providentiel ne fonctionne pas, puisque c'est la recette qui avait été proposée et acceptée en 2012. Résultat, 8 ans après, on a encore un coup d'État. Donc, je crois qu'il est important de s'interroger aussi sur la pertinence de cette démarche et peut-être aussi de la remettre en question. Aujourd'hui, ce qui devrait préoccuper les gens, c'est le contenu de la transition et pas uniquement la durée ou les organes de la transition eux-mêmes. Je crois qu'il est extrêmement important de se mettre d'accord sur quelques réformes prioritaires qui pourraient être envisagées ou en tout cas dont la mise en œuvre peut débuter au cours de la transition pour au moins espérer changer la trajectoire ou la façon de faire la politique, la manière dont la gouvernance et les affaires publiques sont gérées aujourd'hui au Mali. Je crois qu'il est extrêmement important de mettre le curseur sur le contenu de cette transition, concourir à l'identification de 2 ou 3 priorités phares pour que les autorités qui seront mises en place dans le cadre de ces concertations-là puissent au moins débuter le travail de transformation du Mali. Je crois qu'il est extrêmement important, sinon la précipitation qui a caractérisé la gestion de la transition en 2012, si on s'engouffre dans cette même précipitation en 2020, j'ai peur qu'on ne soit pas à l'abri d'un coup de force ou même d'une chute par la rue du pouvoir dans les prochaines années.
Alors, quelles sont les priorités, justement, auxquelles devraient s'attaquer les autorités de la transition, quelles qu'elles soient?
La première priorité devrait être l'élaboration de la Constitution. Alors, évidemment, il s'agit pas de changer 2 ou 3 articles de la Constitution pour penser qu'on a résolu les problèmes. L'élaboration de la Constitution doit être un moment de refondation, un moment refondateur pour les Maliens. Un moment où ils discutent des sujets, de la forme de l'État, du rapport entre l'État central et les collectivités, les régions. Le moment où les Maliens peuvent discuter aussi du rapport ou des rapports entre l'État et les citoyens. Je crois que ces débats sont extrêmement importants. C'est aussi peut-être l'occasion de questionner le vivre ensemble des Maliens qui a été fortement ébranlé au cours de ces dernières années, notamment dans le centre et dans le nord du pays. La deuxième priorité, Caroline le rappelait, évidemment l'un des scénarios, c'est que si on va à des élections de façon précipitée au bout de 12 mois, c'est que la vieille garde politique, les politiques qui sont là depuis 90, qui sont beaucoup plus expérimentés, mieux aguerris et qui ont aussi des moyens financiers colossaux, ne remportent finalement l'élection présidentielle. Alors, est-ce qu'on ne court pas le risque de se retrouver finalement avec les vieilles pratiques qui ont été tant dénoncées ces dernières semaines, voire ces derniers mois par les Maliens, mais aussi de façon peut-être moins véhémente et plus discrète par les partenaires internationaux eux-mêmes. Donc l'une des façons de réinventer aussi de renouveler le paysage politique, c'est de faire des réformes très profondes dans le système électoral. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, quand on regarde de près le système électoral, c'est un système électoral qui favorise les candidats qui sont riches, qui disposent de partis bien implantés. Il faut aussi pouvoir permettre à d'autres couches de la population ou à d'autres individus qui ont des projets de société et qui n'ont pas forcément des moyens colossaux de s'exprimer, de pouvoir battre campagne et d'introduire aussi de nouvelles idées tout simplement dans le système politique malien. Évidemment, la dernière priorité de mon point de vue qui devra être assignée à la à la transition. Il faut pas oublier, on l'a suffisamment discuté au cours de cette émission, la situation sécuritaire aujourd'hui, rien ne peut se faire. Toutes les réformes dont je viens de parler ne pourront être mises en œuvre que s'il y a un minimum de sécurité au nord et au centre du pays, évidemment.
Justement, Mathieu Pellerin, en juin, lors d'un sommet du G5 Sahel en Mauritanie, Emmanuel Macron avait assuré que les forces françaises et sahéliennes avaient réussi à inverser le rapport de force dans la zone des trois frontières, Mali, Burkina, Niger, et il avait même déclaré « la victoire est possible au Sahel ». Au vu de la situation sur le terrain actuellement, est-ce qu'il n'a pas péché par optimisme ?
Disons, tout dépend du point de vue et de l'ennemi. Si la priorité était de lutter contre l'État islamique au Grand Sahara, qui est une branche, on va dire, qui relève de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, communément connu sous le nom de ISWAP, oui, on peut considérer que le contrat est en partie rempli. Maintenant, comme je l'ai expliqué précédemment, les succès antiterroristes ne sont pas derrière capitalisée et mise à profit d'une solution politique. Et on voit que le vide est comblé par l'autre groupe, le JNIM, qui récupère le terrain abandonné par l'État islamique. Donc de ce point de vue-là, c'est un jeu à somme nulle. Et pour l'instant, non, le contrat n'est pas rempli. JNIM contrôle une partie considérable du nord du Mali, contrôle une partie considérable du septentrion burkinabé, s'étend de plus en plus dans, je dirais, les septentrions des pays d'Afrique de l'Ouest, les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. On voit que le nord-ouest du Nigeria est menacé de basculer également sous, je dirais, une présence plus prononcée des groupes djihadistes. Donc non, le contrat n'est pas du tout rempli et il ne pourra pas l'être tant que on se bornera à avoir une approche uniquement militariste, dénuée de solutions politiques de moyen long terme.
Quelle est l'alternative à la force armée ?
Mais si vous voulez, c'est pas forcément une alternative. C'est davantage des approches qui sont complémentaires et qui permettent à chaque fois qu'il y a un succès qui est obtenu, que les États, les collectivités territoriales, les communautés soient mobilisées pour se réconcilier, pour définir elles-mêmes les conditions de la sécurité sur place, pour que les relations entre les États et les communautés soient également améliorées. Vous avez par exemple, si je prends le cas du Mali, vous avez foultitude d'ONG, y compris même des instances parfois nationales, qui sont mobilisées pour du dialogue communautaire, pour du dialogue entre l'armée et les communautés, mais ce sont des initiatives qui sont ponctuelles et qui ne produisent rien de concret sur le terrain. Et de fait, on observe tous ces succès minimes qui peuvent être rencontrés sont ensuite mis à mal par la poursuite d'exactions de la part des armées, de la part des groupes d'autodéfense, qui vraiment minent tous les résultats qui peuvent être obtenus. D'où la nécessité d'avoir une réforme de la gouvernance qui soit beaucoup plus profonde et structurelle, comme l'a dit Ibrahim. Ensuite, en termes d'alternative, il y a toujours la question du dialogue avec ces groupes. Alors, la question du dialogue est souvent résumée à une entente avec les chefs de ces groupes, mais il y a énormément de types de dialogues qui peuvent être imaginés. Et le premier de ces dialogues, c'est de dialoguer avec les bases combattantes. Et dialoguer avec les bases combattantes, ça veut dire à minima définir une méthodologie, mettre en place des institutions qui favorisent la démobilisation partielle d'un certain nombre de ces combattants, leur réintégration, leur réinsertion, que tout cela soit associé aussi à des initiatives pérennes de réconciliation des communautés. Et pour l'instant, tout ceci n'est pas effectif.
Ibrahim, vous êtes d'accord?
Oui, je crois clairement qu'il ne faut pas voir les choses de façon exclusive. Il n'y a presque rien d'antinomique à faire des opérations militaires et à initier d'autres types d'actions comme le dialogue, comme la réforme de la gouvernance, comme des actions qui s'inscrivent davantage dans le cadre du développement économique. Je pense que justement, c'est cette façon de compartimenter un peu la solution qui fait que le Sahel, de façon générale, et le Mali, de façon particulière, ne s'en sort pas. Et que malgré les succès qui sont annoncés et présentés par Barkhane, il faut se rappeler qu'il y a encore quelques mois, l'opération Barkhane a annoncé la mort de Abdelmalek Doudel, qui est quand même une figure importante de
D'ACMI.
Du djihadisme, d'ACMI, du terrorisme en Afrique et au Sahel de façon particulière. Donc, je crois qu'il faut sortir de ces approches cloisonnées-là. Les opérations militaires ne sont utiles que si elles concourent à un objectif politique. Et l'objectif politique doit être la réconciliation, bien entendu, des communautés, le développement économique dans ces zones-là, mais aussi une réforme totale, profonde des pratiques de gouvernance.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités de Géopolitique. Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISS, l'Institut d'études de sécurité basé à Bamako. Mathieu Pellerin, expert Sahel à l'International Crisis Group et chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Et Caroline Roussy, chercheuse à l'IRIS, responsable du programme Afrique. Merci à Pauline Leduc qui a réalisé cette émission. Géopolitique revient demain. Nous dresserons le bilan de la visite cette semaine au Liban d'Emmanuel Macron.